Voilà.
Pardon, il y a eu un petit couac
Petit bug.
d'enregistrement. Vous
Voilà.
êtes
Donc, j'ai créé Ensemble de Générations pour répondre justement à ces constats, donc pour répondre à la solitude des personnes âgées. Et puis aussi à l'allègement de leur quotidien, parce que quand on vieillit, eh bien, le quotidien devient lourd. Pour répondre à la précarité des étudiants, donc à cause du prix du logement qui est devenu très, très cher partout, dans les grandes villes universitaires et tout particulièrement en Île-de-France. Et donc, qui menace les études proprement dites des jeunes. Je voulais aussi, donc, dans cet esprit, recréer du lien intergénérationnel, puisqu'autrefois, il existait de façon interfamille. Mais voilà, les familles ont un petit peu explosé du fait de l'urbanisation des villes. Et maintenant, donc, il faut recréer une solidarité intergénérationnelle, donc extra-famille. Et ça marche très, très bien, d'ailleurs. Et puis aussi, aider les aidants familiaux. Voilà, parce que ça permet donc quand maintenant des familles, des enfants peuvent avoir quatre parents âgés qui vieillissent en même temps. Les enfants travaillent eux-mêmes, souvent donc à plein temps, et il faut pouvoir leur amener du soutien. Et le fait de pouvoir proposer à un étudiant qui viendrait donc rendre des services, amener une certaine présence, soulage ces familles. Et on intervient aussi auprès de couples âgés dont l'un est malade, l'un est fragilisé. Et rappelez-vous, on dit souvent malheureusement que les aidés meurent avant les aidants. Pourquoi? Parce qu'on s'épuise. Et quand on peut aussi apporter le soutien d'un étudiant, eh bien, ça soulage complètement ces couples dont l'un est fragilisé. Alors, je vous parle du concept. Donc, le concept d'ensemble de générations, c'est le développement du logement gratuit ou économique au domicile des personnes âgées. Alors, pour les étudiants, en échange de présence et de services. Alors là, pour vous parler au niveau national, puisque l'association a donc maintenant 16 ans, elle a mis en place à peu près une trentaine d'agences sur le réseau national, dont l'agence du 92, qui a été créée en 2006. Depuis 2006, nous avons mis 5 000 binômes étudiants-seniors en place. Alors, un binôme, c'est un étudiant qui loge une année universitaire chez une personne âgée dans le cadre d'ensemble de générations, donc dans le cadre du logement gratuit ou économique. Et à l'année, donc ça, c'est le chiffre avant Covid, donc on était à 660 binômes par an, 400 en Île-de-France et 250 en province, et dont à peu près entre 60 et 70, par exemple, dans l'agence Ensemble des générations des Hauts-de-Seine. Alors, on a aussi essaimé à l'international, donc ça, c'est un petit peu notre cerise sur le gâteau. Voilà, on a été visité souvent par le Japon, donc on a essaimé au Japon, on a essaimé aussi au Canada, en Martinique et dernièrement en Tchéquie. Alors, ensemble de génération, pourquoi ça marche et pourquoi ça a été mis en place? C'est que de plus en plus, voilà, on rentre dans un monde virtuel. Et moi, je me disais qu'on ne peut pas mettre un étudiant chez une personne âgée qui a un certain âge en passant uniquement par le virtuel. Et vous voyez bien que ce monde du virtuel, et on l'a d'autant plus vécu avec le Covid, eh bien, casse le lien quelque part, empêche le lien physique. Et empêche le lien en général. Et donc, nous, on veut résister un petit peu à tout ça en disant que pour mettre un étudiant chez une personne âgée d'un certain âge, eh bien, il faut que ça soit fait de façon très méthodique. Et pour vous dire, notre taux de satisfaction de mise en place des binômes est de 96%. Et pourquoi ce succès? C'est parce qu'il est lié à une méthodologie très appliquée de la part de l'association. C'est-à-dire que quand une personne âgée nous appelle, on va à son domicile, on va lui rendre visite, on va évaluer sa demande, ses besoins, on va définir ses attentes, et donc on va rester à peu près entre une heure et demie chez elle, voilà, à bien la connaître, parce que finalement, ensemble de génération, c'est une histoire de famille. Et donc, la rassurer sur le concept, lui dire que nous sommes là toujours en veille et en suivi, voilà, si elle prend un étudiant chez elle, et de l'autre côté, nous avons des étudiants qui sont faits pour le concept, parce qu'effectivement, ce n'est pas fait pour tous les étudiants. Donc là où je voudrais insister, c'est de dire que l'étudiant qui nous offre, qui nous envoie pardon, son dossier de candidature, c'est qu'il a déjà une vocation, il a déjà un appel à habiter chez une personne âgée. Moi, j'ai deux filles qui ont fait l'expérience. Donc quand elles ont vu que je lançais Ensemble des générations, elles m'ont dit, Maman, on veut connaître ça. Ça a été fantastique, ça a été formidable. Et elles en garderont donc une expérience toujours très positive et qui les aidera à s'assurer dans elles-mêmes dans leur vie personnelle. Alors, donc ces étudiants qui nous envoient un dossier de candidature sont faits pour vivre chez une personne âgée. Et donc, ce sont des étudiants qui sont sérieux, qui ont un supplément d'âme, qui ont une vraie vocation. Donc, les étudiants se sélectionnent eux-mêmes à travers le site. Ensuite, nous les recevrons chacun en entretien. Et si donc on voit ensuite la personnalité de l'étudiant, on s'est déjà rendu compte de la personnalité de la personne âgée. Et donc, on voit qui peut aller avec qui. Et ça, c'est très important. Au fait, mettre un étudiant chez une personne âgée qui peut avoir 92 ans, c'est une alchimie complexe. Et donc, on fait attention aux attentes et aux besoins des autres, des uns et des autres. Et si on peut le faire, on va jusqu'aux passions partagées. Voilà, par exemple, je peux vous parler d'un exemple où c'est un monsieur voilà, qui avait 80 ans, il s'appelle Yvan, et qui, au fait, avait beaucoup de mal à faire le deuil de son épouse après 60 ans de vie commune. Et voilà, quand je suis allée le voir, il m'a expliqué sa douleur, puisqu'ils étaient très unis. Et il me disait vraiment, ça fait trop mal, ça fait très très mal de me retrouver tout seul, je ne peux plus rester. Seul le jour, il me disait, ça va encore. Mais quand je vais au stade, par exemple, parce qu'il était un passionné de rugby, il voyait des personnes, mais il n'y avait pas vraiment de contact approfondi. Et il me disait que les soirées étaient devenues beaucoup trop longues. Et il avait une phrase qui, moi, il m'avait saisie à l'époque quand je l'ai visité. Il m'avait dit, la solitude, c'est presque pire que la mort. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis Ensemble de Génération en place. Et ce monsieur, donc, il a fait le pas de nous appeler. Et quand, moi, de mon côté, j'ai reçu une jeune fille qui s'appelait Radija. Elle avait 20 ans, un très beau sourire. Et donc, je lui ai présenté. Et il l'a tout de suite adoptée. Et Radija a été d'une présence incroyable pendant plusieurs années auprès de Yvan. Il l'a considérée comme sa petite fille. Et ce qui a été formidable, c'est que finalement, elle aussi, elle était passionnée de rugby. Et comme le rugby, c'était toute la vie de ce monsieur Yvan, eh bien, c'est devenu une affaire de famille. Et ensemble, ils regardaient, ils allaient au match et ils ont même participé à la Coupe du monde de rugby à l'époque. Voilà, donc ça, c'est un binôme. Et vous pourrez aller voir sur le site, il y a un livre qui retrace l'interview d'une vingtaine de binômes. Et quand voilà, on vous dit qu'on a mis 5000 binômes, chaque binôme, c'est une histoire particulière, c'est une histoire merveilleuse, c'est une histoire très personnifiée et toujours avec une aventure qui lie les deux générations ensemble. Et pourquoi ça marche, au fait? Parce que d'une part, c'est deux générations qui ont 70 ans de différence d'âge, qui se respectent, qui ont chacune leur vulnérabilité. Et donc, c'est cette vulnérabilité qui fait qu'on va à l'essentiel. Et c'est ce que nous avons découvert. Et vraiment, donc, on conseille vraiment, c'est une solution extraordinaire pour les personnes âgées pour pouvoir se maintenir à domicile par la présence rassurante d'un jeune, pour voilà, casser la solitude, pour alléger le quotidien. Et puis, cette personne âgée, en même temps, elle permet à un étudiant qui est en précarité, voilà, qui n'a plus les moyens de faire des études, d'avoir la possibilité d'avoir un logement gratuit ou économique, et puis de, lui aussi de casser sa solitude, parce qu'on parle toujours de la solitude des personnes âgées, mais aussi une grande solitude chez les étudiants. Et donc, c'est vraiment du donnant-donnant, chacun s'y retrouve, et grâce à l'association qui encadre et qui fait un suivi, tout se passe merveilleusement bien. Peut-être avez-vous des questions?
Oui, alors moi je me demandais justement, vous dites logement économique ou logement gratuit, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous fait finalement décider? Et puis j'ai également une question autour des familles aidantes, hein, naturellement. Comment vous les contactez? Comment vous appréciez leurs besoins? Voilà, et puis bon, pour finir, il y a aussi toute la question de la communication et également du suivi de ces binômes pendant l'année.
D'accord.
Est-ce que vous avez une sorte de service après-vente, en fait?
Oui. Très bien. Donc, alors, c'est vrai que nous avons mis en place 3 formules de logement intergénérationnel pour correspondre à tous les âges des personnes âgées. Donc, si une personne âgée entre 65 ans et 75 ans, elle est encore dans la vie active. Et voilà, maintenant, la retraite peut être très, très basse du fait d'avoir perdu son mari. Et cette retraite, cette pension de réversion peut effectivement ne pas lui permettre d'avoir une vie sociale. Et donc, c'est là où nous avons des étudiants qui, eux, ne peuvent pas s'engager dans les deux autres formules parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils veulent pas non plus habiter tout seuls. Et donc, ils peuvent offrir un loyer, ce qu'on appelle un loyer solidaire, qui est 30% en dessous du prix du marché. Et donc, ce complément de revenu va pouvoir aider la personne âgée à avoir une vie sociale qu'elle n'avait plus, à s'offrir des musées, aller au cinéma. Et en plus, alors, à cette présence de l'étudiant, qui lui, s'il ne s'engage pas au niveau du temps de présence ni même des grands services, sera là en veille permanente pour assurer une sécurisation de la personne et puis sera toujours donc dans la discussion et avec l'esprit du lien intergénérationnel. Alors après, vous avez une deuxième, des personnes âgées qui sont un peu plus âgées, qui ont entre 75 ans et 85 ans et qui là nous disent, ben voilà, le quotidien est devenu trop lourd, même de sortir de chez moi pour aller chercher les médicaments à la pharmacie, je ne peux plus. Aller chez le médecin, je ne peux plus non plus, je ne sors plus, je ne peux plus aller au musée parce que j'ai trop peur toute seule de prendre les transports en commun. Voilà, même à la maison, même s'occuper du jardin, je l'aime beaucoup, mais voilà, je n'ai plus la force et l'énergie. Et là, nous, en tant qu'ensemble de génération, on propose donc un étudiant qui, lui, va donner une participation en charge qui fait que ça ne coûte rien à la personne âgée. Il va donner à peu près 100 euros par mois pour payer ses frais d'électricité, de téléphone et les frais d'usage. Et lui, ce jeune étudiant, va s'engager à rendre des services que la personne âgée aura choisi, parce que c'est pas toute personne âgée a peut-être des services différents à demander. Ça va de la conduite en voiture, d'aller chez le médecin, de faire un musée, d'aller au cinéma, de regarder la télévision ensemble, de jouer à des jeux de société. Et donc là, quand l'étudiant se présente à la personne âgée, eh bien, tous les deux vont cocher les services que l'étudiant pourra rendre. Donc ça, c'est une tranche d'âge encore jeune, entre 75 et 85 ans. Et après arrive le grand âge. Et donc, voilà, nous avons plusieurs centenaires et même notre doyenne a 104 ans. Donc entre 90 et 100 ans, là, la personne âgée, en général, commence à rentrer dans la dépendance, mais ce n'est pas pour ça qu'elle mérite d'aller en EHPAD, même s'il y a des EHPAD très très bien, mais si on peut rester chez soi, c'est vraiment l'idéal. C'est ça le but à atteindre. Et ça, c'est possible. C'est possible de rester le plus longtemps chez soi à domicile. Si entre 90 ans et 100 ans, on a une présence le soir, la nuit, qui assure une veille sécurisante, qui est là en présence pratiquement permanente, qui rassure les enfants, qui rassure la personne âgée en cas de chute. Et je peux vous assurer qu'avec l'expérience que nous avons aidé à peu près 4 000 personnes âgées, eh bien, il y a beaucoup de personnes âgées à qui voilà, on a évité une mort peut-être difficile, voilà, parce qu'elle serait tombée toute seule dans son appartement. Et si elle avait été seule, eh bien, on ne peut pas imaginer. La douleur et la souffrance que ça aurait pu être. Alors que nous, avec nos étudiants, eh bien voilà, ils assurent une veille sécurisante le soir et la nuit. Donc, ils ont quelques plages de liberté, c'est-à-dire que l'étudiant s'engage à être là le soir à l'heure du dîner. Il a un soir de libre, 2 week-ends de libre par mois et 4 semaines de vacances entre septembre et juin. Mais le reste du temps, il est là. Donc, il est là en soirée et en journée. Ce que je voudrais préciser, c'est que dans les trois formules, les étudiants ont des cours la journée. Donc, ils ne pèsent pas en présence de jour chez la personne âgée qui a toute son autonomie, toute son indépendance. Mais voilà, une personne âgée qui a 92 ans peut le soir, au moment du crépuscule, avoir certaines angoisses, se sentir trop seule, trouver que les soirées sont trop longues. Et c'est pour ça qu'elle fait appel à l'ensemble de générations. Donc, trois formules, ça va de 65 ans à 100 ans. Et en fonction des âges, la personne âgée va choisir sa formule. Et donc, pour vous dire que le logement gratuit, ça représente à peu près 35% de nos demandes. Le logement économique, où l'étudiant donne une participation aux charges, ça représente 25% des demandes des personnes âgées. Et le logement avec le complément de revenus, alors ça dépend des agences en province ou si c'est en Île-de-France et même des arrondissements ou des départements de l'Île-de-France, ça représente entre 30 et 40% des. Voilà, ça c'est la formule avec complément de revenus, avec un loyer solidaire. Alors pour parler des familles aidantes, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, des enfants qui travaillent peuvent avoir 4 parents âgés vieillissants en même temps. Et donc là, vous pensez bien que c'est impossible de travailler. Moi-même, j'ai une maman dans la dépendance. Je pense sincèrement que si j'avais dû m'en occuper, parce qu'il n'est pas question qu'on la mette en maison de retraite, mais voilà, il faut quelqu'un et on n'a pas les budgets nécessaires pour avoir du personnel de jour et de nuit, eh bien, je crois même que j'aurais été obligée d'arrêter en centre de génération si je n'avais pas eu un frère qui s'en occupe régulièrement. Donc, vous voyez comme quoi une personne âgée, et on le verra de plus en plus, peut peser sur le quotidien des enfants qui travaillent. Et c'est là où nous intervenons, et c'est pour ça qu'on n'est pas assez connu auprès de ces familles aidantes, parce qu'on voudrait leur dire qu'avec l'apport des étudiants, eh bien, ça peut radicalement changer leur vie. Moi, j'ai une personne qui a rejoint le projet, qui devient secrétaire générale d'Ensemble de Génération au niveau national. Elle a connu Ensemble de Génération parce qu'elle avait un papa vieillissant et que malgré quand même un train de vie voilà, qui était correct, bien, le budget n'arrivait plus à suivre pour avoir du personnel de jour et de nuit. On arrivait à des budgets de 6 000 euros par mois et ça, je l'ai vu plusieurs fois à Paris. Et donc, en mettant un étudiant qui, lui, va pouvoir assurer la veille et la présence le soir et la nuit, eh bien, ça permet financièrement aux enfants de pouvoir garder leurs parents à leur domicile. Ouais. Je ne vous entends plus.
Non, non, voilà, j'ai réactivé. Et puis, si l'un ou l'autre veut poser une question, surtout n'hésitez pas à réactiver le son. Est-ce que c'est justement une caractéristique des Hauts-de-Seine, cette histoire des familles aidantes? Est-ce que vous voyez une différence entre les grandes villes et puis les zones plus rurales? Comment ça se passe? Enfin, comment vous voyez un petit peu les choses?
Alors, en Ile-de-France, au niveau des demandes des trois formules, des âges, on retrouve toujours d'année en année les mêmes statistiques. Voilà. Au niveau province, effectivement, c'est un peu plus rural, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, l'étudiant doit avoir une voiture. Donc là, en Ile-de-France, on bénéficie beaucoup des transports en commun. Il y a même, malheureusement, quelquefois, des personnes âgées qui habitent en dehors des transports en commun qui auraient besoin d'un étudiant et pour lequel on ne peut pas aider parce que justement il n'y a pas d'accès pour l'étudiant pour qu'il puisse aller à sa faculté. Mais sinon, donc, dans le département des Hauts-de-Seine, eh bien, on existe depuis 2006. Et donc depuis cette année-là, 2006, on a mis en place déjà presque 900 binômes. Et c'est-à-dire qu'on s'est occupé de 1800 personnes, que ce soit côté étudiant ou côté personne âgée. Et donc, voilà, avant Covid, on était à peu près à 70 binômes par an. Et voilà, le Covid, effectivement, nous a beaucoup impacté, hein, puisque les étudiants n'avaient plus de cours, que les personnes âgées se disaient, mais voilà, est-ce qu'il y a un risque avec le Covid? Et finalement, si on fait un bilan du Covid, eh bien, les étudiants ont été formidables. D'abord, il n'y a pas eu de transmission du Covid d'un étudiant à une personne âgée. Il y a des personnes âgées qui ont eu peur au départ et qui se sont dit « on ne va pas prendre d'étudiants parce que c'est risqué ». Mais finalement, au bout de 6 mois, elles nous ont appelées en disant « on préfère encore attraper le Covid plutôt que de rester seule ». Je crois que quand on n'a pas goûté la solitude, ben la prêté de la solitude, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, 30% des étudiants au premier confinement sont restés chez les personnes âgées pour ne pas les abandonner à leur solitude parce que les enfants s'étaient confinés en province. Et au deuxième confinement, il y a 70% des étudiants qui sont restés avec leurs personnes âgées, en général, donc au niveau de l'Île-de-France.
D'accord. François, vous voulez poser une question ou Caroline?
Oui, bonjour. Merci beaucoup de cette initiative. Je suis membre de l'équipe du bureau. De l'équipe locale du bureau du Secours catholique d'Asnières. Et donc je suis référente accueil et donc je reçois régulièrement des personnes. Je suis en action depuis 2-3 ans au Secours catholique et on reçoit régulièrement des personnes sans domicile ou qui ont des problèmes de logement. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup. Donc j'ai découvert l'association Ensemble de Génération depuis, je pense, avec une plaquette qui était déposée à la Maison de la Parole pour faire le lien aussi avec. Excusez-moi. Pour faire le lien avec ce que. Je ne sais pas ton prénom de la fondation. À la Maison de la Parole, je crois, de Meudon. Et pour moi, c'est une association clé. Ce n'est pas forcément facile parfois d'identifier donc une personne âgée ou une personne qui pourrait bénéficier. Alors, sur ces dernières années, moi, j'ai sollicité Ensemble de Génération une seule fois. Je n'ai pas eu de suivi, mais... c'était un étudiant qui avait, lui, un suivi assistante sociale à la Garenne-Colombes. Donc, et je dois vous avouer qu'on a beaucoup, beaucoup de besoins, pas seulement de logement. Donc, on a du mal à suivre. Et donc, le contact, là, j'ai repris, alors je ne retrouve pas le mail, mais sur votre site, vous avez Catherine Garnier qui s'occupe du 92. Est-ce que votre site est à jour déjà?
Oui, très bien. Hein. Vous pouvez la contacter.
Bah, je l'ai contactée par mail, mais je n'ai pas eu de suivi. Bon, c'est vrai que quand on peut avoir beaucoup, beaucoup de mails quand on s'occupe.
Non, mais je vais peut-être prendre votre adresse mail et je vais demander d'entrer en contact avec vous.
Voilà. Alors, en tout cas, moi, je suis engagée sur la paroisse de Ensemble Pastoral à Nières Centre. Et je souhaiterais, je profite de cette opportunité hein, du café, je souhaiterais qu'on fasse de la communication sur l'ensemble des solutions proposées pour le logement. Et pour moi, Ensemble de Génération en fait partie.
Oui.
Je ne sais pas si c'est des choses qu'on vous demande en général, mais voilà, je profite de ce café pour faire ma demande.
Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment vous aimeriez qu'on organise ça sur la paroisse.
Déjà, en fait, nous, on a une feuille d'information paroissiale.
D'accord.
Et au Secours catholique, on a aussi l'agence immobilière de logement. Et je voudrais faire un appel plus général ou avec différentes options. Bah, il y a l'option ensemble de générations. Vous avez un logement, bah, ça peut être une agence immobilière ou autre. Hein. Mais voilà, je suis preneuse d'offrir des solutions parce que je suis tellement démunie quand je reçois une personne qui n'a pas de toit sur la tête et que je rentre chez moi. C'est très, très dur.
Non, mais je comprends tout à fait. Alors, la seule chose qui est un peu difficile, c'est que pour nous, on est encadré par la loi Elan. Et donc, on ne peut aider que des étudiants et en dessous de 30 ans. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas aider.
Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai aussi une maman âgée, je suis aidante. Donc, je suis tout à fait consciente. Et je suis tout à fait consciente et j'apprécie qu'effectivement, vous fassiez les matchages entre les personnes âgées, parce que ça, c'est super important. On n'arrête pas de dire à nos parents ou grands-parents, faites attention, n'accueillez pas tout le monde. Et là, on est dans un discours inverse, en fait. Donc, c'est pas simple. C'est bien qu'il y ait un protocole, c'est très bien qu'il y ait un protocole, c'est très bien qu'il y ait une méthodologie derrière.
Voilà. C'est vrai, vous avez raison, parce que même nous, on est une méthodologie très appliquée, ça fait 16 ans qu'on fait ça. Si vraiment on sentait qu'on mettait tout le monde en danger, on aurait arrêté depuis longtemps. Ça n'empêche qu'effectivement, même quand on met un binôme en place, moi, il se peut que je dorme mal la nuit suivante en disant est-ce que j'ai bien adapté ceci et cela. Et franchement, c'est toute cette préparation en amont, comme vous le soulignez, madame, et je vous remercie, qui nous permet justement de dormir tranquille. Parce qu'on a des critères. Si vous voulez, par exemple, un critère qui est simple, mais qui est très important, c'est est-ce qu'il y a du cœur de part et d'autre, vous voyez, parce que s'il n'y a pas de cœur, on ne s'entendra pas même si on a besoin l'un de l'autre, ça c'est sûr. Par exemple, si je reçois un étudiant, est-ce que je mettrai cet étudiant chez ma maman? Voilà, et quand je visite une personne âgée, parce qu'on peut aussi refuser les personnes âgées, eh bien, est-ce que je mettrai un de mes enfants chez ces personnes âgées? Donc ça, au niveau de la formation de nos chargées de mission, elles ont ces trois critères. Et après, c'est au moment de l'évaluation. Mais voilà, on y arrive et c'est formidable. Moi, sincèrement, je me dis qu'il faudrait que toutes les personnes âgées nous connaissent et qu'elles acceptent de... C'est vrai que ça leur demande un effort parce qu'il faut qu'elles ouvrent leur logement, il faut qu'elles partagent leur intimité. Mais voilà, ce sont des étudiants qui sont exceptionnels, vraiment exceptionnels. Moi, ça me dépasse. Hein. Et puis eux, ils sont tellement contents parce que moi, j'aime beaucoup la personne âgée. Elle est très vulnérable dans son grand âge, mais le jeune aussi. Et on croit que c'est le jeune qui va aider la personne âgée. Et finalement, c'est la personne âgée qui va aider le jeune. Celui, il peut ne pas avoir le moral, il trouve que les études, c'est trop difficile. Mais il est encouragé par la personne âgée qui, elle, n'a plus rien à prouver, au fait. Et c'est ça, le charisme du grand âge. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est que si on reste ouvert sur la vie, eh bien, on peut beaucoup apporter à cette jeune génération parce qu'on n'a plus à prouver qui on est. Ça, on l'a fait avant. Et on n'est plus dans le faire, on est dans l'être. Et moi, quand je visite les personnes âgées, finalement... Souvent, pour les étudiants, je me dis, mais c'est moi qui aimerais poser mes valises chez ces personnes âgées, tellement je les aime, tellement elles sont là, disponibles. Un jour, on demandait à une petite fille de 2 ans, pour toi, qu'est-ce que c'est un adulte? Et elle répond, mais c'est quelqu'un qui court tout le temps. Voilà. Eh bien, la personne âgée, elle ne court plus. Et moi, personnellement, pourquoi j'ai lancé ce projet-là? C'est parce que j'ai beaucoup déménagé. Et donc, eh bien, quelquefois, on est des trop-pleins dans la vie. Voilà, parce qu'on voit beaucoup de souffrance autour de nous. Et puis même quand on est une famille, eh bien, je me disais, mais mon trop-plein, à qui je vais le déverser? Ben, au prêtre, ce n'était pas si simple. Au mari, bon, ben non, ce n'était pas ça non plus, parce que voilà, il n'allait peut-être pas tout entendre. Le psychologue, ce n'était pas ça non plus. Eh bien, j'avais toujours une personne âgée avec qui j'avais fait connaissance. Et donc, quand j'avais un trop-plein, j'appelais Francine. J'ai dit, Francine, est-ce que tu es bien? J'ai envie de venir vous rencontrer. Alors, du coup, j'arrivais chez elle, il y avait la petite tasse de thé, le petit gâteau. Et là, je déversais ce que j'avais en trop. Et en partant, je me disais, mais pourquoi je me sens si bien? Eh bien, parce que je m'étais aperçue finalement qu'elle ne jugeait pas, elle ne portait pas de jugement sur ce que je pouvais dire. Et c'est ça finalement que les étudiants aussi, souvent de familles explosées, qui ne savent plus qui ils sont eux-mêmes, eh bien, ils discutent, ils parlent de leurs souffrances, de leurs attentes, de leurs difficultés. Ils se rendent compte que finalement, la personne âgée qui est en face, elle n'est que dans l'écoute et l'amour. Et ça, ça vous fait grandir un jeune, mais de façon incroyable. Combien nous ont dit, ben voilà, on s'est sociabilisé, on a découvert que finalement, il y avait plus de joie à donner qu'à recevoir. Non, mais c'est extraordinaire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est faire 10 binômes par jour. Voilà, maintenant, la personne âgée, il faut l'atteindre, il faut la rassurer. Une fois qu'on est chez elle, eh bien, ça va. Elle va accepter de... Et après, elle renouvelle tout le temps. En fait, toutes les personnes âgées qui passent à l'association renouvellent à 100%. Et comme vous dites, et comme Virginie me posait la question, ça marche aussi parce que toute l'année, on est en veille. Toute l'année, on est en suivi permanent. Mais et s'il faut faire une médiation, on est là. Et quelquefois, on est tellement professionnel dans la médiation, parce qu'on n'est pas dans l'affectif, que les familles nous remercient même si le binôme n'a pas marché. Donc, tout va pour le mieux. Et donc, cette veille permanente, c'est vrai que, par exemple, pendant nos vacances, on a toujours le téléphone ouvert. Ce n'est pas parce qu'il peut se passer un problème entre l'étudiant et la personne âgée, mais par exemple, une fois à Noël, il y a une personne âgée qui s'est fait agresser à la gare. Eh bien, heureusement qu'elle m'a eu, parce que du coup, l'étudiante qui était chez elle habitait pas trop loin de Paris, de l'Île-de-France. Elle a pris le train, elle est venue lui redonner des clés, et cette personne âgée a pu rentrer le soir chez elle, et malgré le traumatisme de l'agression, au moins elle a pu se remonter plus vite la pente, parce qu'elle ne savait pas où elle allait dormir, elle n'avait plus rien. Vous voyez, donc, on est, nous, en tant que chargés de mission, on est dans cet esprit de cœur d'ouverture à résoudre, ben, voilà, si on peut trouver des stages aux étudiants, on en trouve, on a un réseau maintenant qui fait que on peut faire passer des messages. On fait aussi pour créer du lien. Alors là, ça, c'est un effet positif du Covid. Parce qu'avant, on faisait donc un dîner des étudiants qu'on va remettre en place, où ils arrivent à 150. Et là, ils sont marrants parce qu'ils arrivent en disant « Ah, mais toi aussi, tu fais ça. Ah, toi aussi, tu habites chez une personne âgée. » En fait, ils ont l'impression de découvrir un nouveau monde. Et puis, ils se pensaient être tout seuls. Et finalement, ils découvrent qu'il y en a beaucoup. Et là, comme il y a eu le Covid, eh bien, on a créé des groupes WhatsApp. Et une fois par mois, tous nos étudiants s'envoient un petit message en disant bah, « Ce soir, on se retrouve au Jardin des Plantes » ou « On fait quelque chose, une soirée pizza. » Et du coup, on recrée du lien entre eux et s'ils peuvent se marier entre eux, eh bien, je serais très, très heureuse, vous voyez. Parce que finalement, l'étudiant, il se sent très, très seul. Alors nous, on apporte déjà une réponse à sa solitude, mais il faut aussi qu'il ait du contact avec sa génération à lui. Et ça, nous, ensemble des générations, on va développer de plus en plus. Alors, ce n'est pas les cafés comme la Fondation Sainte-Geneviève fait, mais ça va être justement ces soirées contact entre eux.
Bonjour. Peut-être Caroline. Oui, voilà, vous avez une question.
J'ai quelques petites questions, si c'est possible. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'entendais parler de vous et que je suis ravie de vous rencontrer.
Merci, Caroline.
Merci à la Fondation Sainte-Geneviève de faire ce lien. Moi, je suis à la Croix-Rouge de Boulogne-Billancourt, responsable des activités sociales. Et donc, dans ce cadre-là, on est beaucoup en contact avec des personnes âgées et avec des mamans, avec des jeunes enfants. Donc, j'ai plusieurs questions. Est-ce que, parce que je sais que pour des personnes âgées, d'avoir des enfants autour d'elles, ça peut être aussi quelque chose de très gratifiant, rassurant, enfin de gai. Je me demandais si vous accueilliez des mamans, parce que je suis moi en contact avec donc des mamans très seules et qui ont un bébé, et qui ne trouvent pas de logement. Donc, est-ce que vous faites ce genre de trinôme, entre guillemets, ou non? Et d'autre part, ça c'est la première question. Donc, je pense que vous pouvez peut-être me répondre en 2 secondes, parce que je pense que ça doit être non la réponse, malheureusement. Mais...
Malheureusement, oui, c'est vrai que nous, on a des appels d'une population de femmes de plus de 50 ans, 60 ans, ou même plus jeunes avec des enfants. Et on se dit que ça serait formidable que les personnes âgées qui avaient des grandes maisons. Mais donc nous, on s'est battu pendant 10 ans pour que la loi bouge, hein, pour nous encadrer juridiquement, parce que pendant 10 ans, on a travaillé alors que l'URSSAF pouvait considérer que la présence de l'étudiant pouvait être un travail gratuit par rapport aux agences immobilières. Donc la loi Elan nous a sécurisés, mais elle nous a un peu bloqués, donc entre 60, les personnes âgées à partir de 60 ans et les étudiants en dessous de 30 ans. Voilà, c'est effectivement. Pardon.
Voilà. En revanche, nous, on a peut-être une solution, Caroline, pour vous. Hein.
Oui.
On en parlera après.
Mais
Alors,
les mamans ont moins de 30 ans, hein.
Oui.
Ah oui. Alors, nous, ce qu'on veut aussi voilà, quand un projet se met en place comme ça, on n'a que 15 ans, hein. Souvent, il faut 50 ans pour que ça se déploie et tout. Et on essaye de diversifier aussi. Par exemple, on essaye d'avoir de plus en plus de studios dans les maisons de retraite. Parce qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas la chambre disponible pour accueillir un étudiant qui seront obligés. Ça sera leur parcours pour eux, la maison de retraite. Donc là, on met des jeunes pour faire de l'animation. Par exemple, on a 13 studios à Bordeaux, on en a dans le 92. Et tout ça après le Covid, quand l'activité aura vraiment tout repris, c'est quelque chose aussi qu'on peut vraiment développer. Et il y a même des étudiants qui vont carrément dans les établissements médicalisés. Mais eux, ils ont pas peur, ils aiment ça. Vous voyez, il y a même des étudiants pour qui sont dans le social et qui veulent faire cette expérience parce que ça va les enrichir toute leur vie. Tous les étudiants qui sont passés par un centre de génération, ce sont des jeunes qui sont construits à vie. Ils pourront traverser la vie parce qu'ils auront vu une personne âgée en face d'elle, qui elle-même aura traversé sa vie avec des joies, des souffrances, des difficultés, mais qui n'aura pas lâché. Et donc, ils apprennent, ils réalisent que dans la vie, on peut aussi se battre. Et voilà, et si on va chercher la force au fond de soi-même, on peut y arriver. Donc, voilà, mais on va essayer aussi de mettre en place des résidences intergénérationnelles à vocation chrétienne, vous voyez, ouvertes à tous, avec un oratoire au milieu où il y aura un engagement à la prière pour se soutenir mutuellement les uns les autres et puis une mission de service sur le quartier. Voilà. Et là, on pourra effectivement intégrer des familles avec enfants seuls et isolés. Et la première résidence, elle doit se faire à Angers, chez les Augustines, où il y a 600 mètres carrés là, de bâtiments à imaginer pour créer cette résidence intergénérationnelle famille, personnes âgées, jeunes, étudiants handicapés. Et en parallèle, il y aura une résidence intergénérationnelle. Alors là, une résidence autonomie avec des personnes âgées dans des studios indépendants, des T2 et des étudiants à côté. Voilà. C'est vrai que je pense que après ce qu'on a vécu au niveau du Covid, où là, on a tous compris ce que c'était que la solitude et l'isolement et ce silence terrible. J'espère qu'on va, voilà, ça va faire un basculement pour l'habitat inclusif, ouais, vivre ensemble,
Magnifique, ça c'est
partager.
un super projet.
Oui, c'est vrai.
Alors, l'autre question, c'est que du coup, on s'occupe aussi de personnes âgées, mais
Oui.
quel est le minimum pour de superficie de leur appartement pour éventuellement accueillir un étudiant? Est-ce qu'il faut 2 pièces? Il faut que...
Oui, c'est ça. Il faut une chambre vraiment qui fait. Où il y a une porte avec une cloison,
D'accord.
voilà. Voilà, salle de bain peut être partagée, la cuisine partagée. Simplement
D'accord.
qu'il faut une chambre indépendante.
D'accord, très bien. Et après, l'autre chose, vous avez plutôt plus de demandes ou plus d'offres? Vous avez plus
Alors,
d'étudiants?
avant Covid, on avait 7 demandes d'étudiants pour une personne âgée. Mais
Ah oui.
là, les étudiants, on ne sait plus où ils sont. Je crois qu'en plus, avec Parcoursup, ça a été un bug pas possible. Et donc, Vous savez que pendant le Covid, on a eu beaucoup de personnes âgées qui nous ont appelés pour lesquelles on n'a pas pu malheureusement mettre d'étudiants parce qu'ils n'étaient pas là. Donc on a hâte vraiment de revivre ce qu'on vivait avant le Covid. Hein. Parce que là, on a des frustrations de partout. On attend les étudiants, les personnes âgées attendent les étudiants. Voilà, on ne sait pas du tout comment va se passer la rentrée universitaire, mais on se donne les moyens de la réussir.
D'accord. Et est-ce que quand l'étudiant ne se sent pas ou la personne âgée ne sent pas le fit, il y a
Oui.
une période un peu d'essai pour... Enfin, pas d'essai, mais comment vous faites ça?
Alors, c'est vrai qu'avec nos méthodologies, ça c'est en toute vérité, je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on présente un étudiant et une personne âgée, ça marche à tous les coups.
Match.
Voilà, parce que d'abord, on se refuse de proposer 2 étudiants pour pas qu'il y ait une étudiante qui se sente frustrée et qu'elle soit blessée par le fait que la personne âgée n'ait pas voulu d'elle. Ça, on ne le fait jamais. Et donc, comme on est sûr de notre méthodologie, on a même la personne âgée qui nous a dit, mais comment vous avez fait pour me trouver la perle que j'attendais? Voilà. Et donc, il se peut qu'au mois de novembre, là, c'est un petit peu le bilan, qu'on on n'a peut-être pas décelé un caractère un peu aigri chez une personne âgée qui était un peu dépressive. Bon, si l'étudiant ne se plaît pas, il y a un mois de préavis, ou même avec une entente cordiale, il n'y a pas de préavis du tout. Tout se fait à l'amiable. D'accord. Mais voilà, pour les écueils par rapport aux personnes âgées, eh bien, on ne peut pas mettre d'étudiants chez les personnes âgées qui sont dépressives, justement. Parce qu'un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Une maladie très spéciale. Et puis, bien sûr, les maladies cognitives. Mais de temps en temps, on arrive à placer des étudiants chez les personnes âgées qui ont même l'Alzheimer, mais en tout début de maladie. Et là, vraiment, c'est formidable de voir des jeunes qui... Moi, le projet, il marche grâce à eux, hein, c'est vrai. Je ne sais même pas si à leur âge, j'aurais fait la même chose que leur engagement.
Alors, je rebondis là-dessus, Tiffane, parce que vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant. C'est que... sur justement ces maladies cognitives, oui, etc., il peut vous arriver, voire même c'est un nouveau mouvement que vous constatez, de placer les étudiants chez un couple où il y a une personne atteinte d'Alzheimer et l'époux ou l'épouse, oui, qui est tellement fatiguée que voilà. Donc c'est une nouvelle. Oui. Voilà, c'est une...
Alors là, voilà. De toute façon, quand on a une demande, on est incapable de dire non au premier abord, sauf si vraiment on voit que c'est des maladies qu'on connaît. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va sur place. On va sur place pour évaluer la situation et pour être en vérité avec la situation, parce qu'il ne faut pas que les enfants nous cachent les difficultés. Et je pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment possible avec un étudiant? Est-ce que la personne âgée, même si c'est un conjoint, est-ce qu'il ne va pas rentrer dans la chambre à 1h du matin pensant ou prendre la valise pensant? Voilà. Donc, on va sur place, on évalue, et voilà, il y a des fois on dit non, c'est pas possible. Et puis d'autres fois, c'est possible. Moi, j'ai mis une étudiante chez une dame qui avait un Alzheimer, mais pas du tout agressif. Et pendant 4 ans, ça a permis à la personne âgée de rester chez elle. Et je veux même encore, la seule chose qui lui restait, c'était le piano. Et donc, c'est ça que je vous disais avec les passions partagées, c'est que quand on sait ça, on attend le dossier d'étudiant qui sait jouer du piano pour pouvoir faire le 4 mains avec la personne âgée qui a été pianiste. On travaille dans la qualité. Donc ce qui est important, c'est que moi, ce que j'ai découvert en 16 ans, c'est qu'on fait reculer l'entrée en maison de retraite de 3 à 4 ans. Et on a même des personnes âgées qui nous appellent de maison de retraite en disant, oh là là, moi, je ne peux pas, je ne tiens pas, mes enfants m'ont mis là il y a 6 mois. Puis 6 mois que j'essaie de tenir, j'y arrive plus, je veux rentrer chez moi. Et du coup, les médecins nous appellent en disant bah, « c'est possible si vous nous trouvez des étudiants ». Du coup, on arrive de temps en temps à satisfaire les personnes âgées qui veulent sortir de leur maison de retraite.
Donc, il y a une forme de charte d'engagement des différentes parties, entre guillemets, la famille aidante, enfin la famille, la personne âgée et l'étudiant.
C'est ça, oui, vous avez raison, c'est une bonne question. Donc, c'est encadré juridiquement par un contrat de cohabitation. Voilà, et selon la formule, on a 3 annexes différentes. Si c'est la formule avec le logement gratuit, donc l'étudiant, il sait à quoi il s'engage par rapport au soir et aux nuits de présence. Et si c'est la formule avec les services, donc il y a une liste de services qui sont ni ménage ni repassage, parce que ça casserait la relation, parce que là, on serait dans un esprit, oui, de subordination. Donc, c'est que des services conviviaux. Et donc là, avec la personne âgée, ils se mettent d'accord pour savoir l'étudiant, enfin, pour que l'étudiant sache ce qui peut aider la senior. Et puis pour la formule avec loyer, il y a aussi donc un contrat, là c'est un contrat de location avec aussi une annexe où c'est des petits services qui ne demandent pas de temps ni de présence à l'étudiant, mais il sera toujours dans le lien intergénérationnel et puis la convivialité et les petits services spontanés, c'est-à-dire que s'il faut changer une ampoule, s'il faut aller chercher un médicament, il a, c'est ça qui fait toute la différence, c'est-à-dire que les jeunes qui nous appellent, ils ont ce sens de l'intergénérationnel, parce que vous pouvez avoir un logement et puis trouver à l'école d'à côté. Si vous dites « j'offre un logement gratuit pour avoir une présence conviviale et intergénérationnelle », vous allez peut-être avoir 20 personnes, 20 étudiants qui vont venir, mais ils ne seront pas dans l'esprit. Mm-hmm. Ils verront qu'au bout d'un mois, vivre chez une personne âgée, ça demande le sens de l'autre, ça demande à se donner, ça demande à être patient. C'est tout un apprentissage de la vie qui fait grandir, qui est formidable, très positif. Mais voilà, il faut avoir l'esprit. Et c'est pour ça que nous sommes sûrs des candidatures de nos étudiants. Et puis l'entretien, voilà, nous permet de déceler, parce que s'il y a un écueil côté jeune, c'est la fragilité psychologique. On voit qu'un étudiant a une fragilité psychologique, on ne peut pas rajouter une fragilité à une autre fragilité. Donc, c'est le seul écueil. Mm-hmm.
Est-ce que vous faites un petit peu de communication auprès des écoles qui accueillent des étudiants? Je pense aux écoles qui ont des préparationnaires voilà, et qui viennent souvent de province, en fait, et qui sont complètement démunis.
Alors, c'est vrai que là où, comme pour tout, vous savez, on est dans un monde de l'image, dans un monde de la communication virtuelle, c'est de plus en plus difficile d'atteindre nos cibles. Mm-hmm. Même, je pense, des structures comme le Secours catholique, comme la Croix-Rouge, c'est si on n'a plus Internet, si on a... Y a plus, alors, avec le Covid, on ne peut même plus mettre de dépliants. Donc, comment se faire connaître auprès des personnes âgées, des étudiants qui en ont besoin. Et donc, à l'heure actuelle, si vous voulez, on passe 70% de notre temps à communiquer, 30% à faire du binôme. Et nous, on veut inverser. Et pour inverser, je pense qu'il n'y en a qu'un qui peut réussir à ce que ce soit un succès, cette inversion, c'est le gouvernement. Mmh. Le gouvernement, lui, il a les moyens de communiquer, comme il le fait pour le service civique, comme il le fait pour l'engagement dans l'armée. Vous avez de très belles affiches dans les rues. Il y a beaucoup de demandes de jeunes. Et il suffit d'avoir des paroles rassurantes sur les affiches en disant on peut vivre ensemble, on peut vivre en intergénérationnel. Et donc, on a beaucoup d'espoir parce que la ministre actuelle est venue visiter deux binômes. En fait, elle ne connaissait pas la cohabitation intergénérationnelle. Je me dis, si elle ne connaît pas, c'est qu'on n'a pas encore réussi à atteindre tout le monde. Et elle a découvert, au fait, ce que c'était. Parce que notre difficulté, c'est qu'on n'est pas visible. C'est-à-dire que ça se passe au domicile. Donc, on n'a pas de vitrine, on n'a pas de bureau, on n'a pas... d'immeubles où c'est marqué ensemble de génération. Tout se passe dans l'intimité, au sein du logement de la personne âgée. Donc, c'est très difficile de voir ce qu'on fait et l'impact social que ça a. Mmh. Et bien, la ministre, quand elle a visité les deux binômes, elle a tout compris. D'abord parce qu'il y avait l'enfant du senior qui disait ce que ça lui avait apporté, la paix dans la famille, le fait qu'il pouvait travailler correctement, le fait qu'il était sécurisé, le fait que lui, il habitait à 300 km et que quand le téléphone ne décroche pas, eh bien, on ne dort plus et on prend sa voiture de nuit pour voir si... si la personne âgée n'est pas morte derrière, si sa maman n'est pas morte derrière la porte. Enfin, vraiment, on peut tout imaginer. Donc, il y avait l'étudiante qui disait, ben, grâce à Ensemble des Générations, je suis médecin. Donc, c'est pas rien. Sans Ensemble des Générations, là, j'aurais pu faire des études de médecine parce qu'il faut tenir 10 ans. Et quand on sait que c'est 5 000 euros par an, il faut toujours... Voilà, soit on emprunte à la banque. Et quand on commence à travailler, il y a la banque qui vient vous chercher en disant, ben, il faut rembourser. Mais si vous remboursez, vous ne pouvez plus vous payer un loyer. Voilà, donc c'est vraiment une solution pour les jeunes pour pouvoir aller jusqu'au bout de leurs études et de créer un avenir. Moi, j'ai sorti une jeune fille de la rue. En fait, moi, j'ai habité 20 ans en Afrique. Et là-bas, ben, on respecte les sages, hein, on les aime. Voilà, et il faudrait retrouver ça en France. Et cette jeune fille, je regarde son dossier, c'était marqué qu'elle dormait dans une salle de garde à vue, au commissariat. Alors, moi, j'étais étonnée parce que, en plus, je m'intéressais à elle, parce que comme j'ai vécu 5 ans en Guinée-Conakry, elle était de Conakry. Elle m'expliquait effectivement qu'elle était en troisième année d'études à l'université d'Evry, mais qu'elle dormait dans la salle, qu'elle avait demandé au commissaire si elle pouvait dormir dans la salle de garde à vue si elle était libre. Et donc, ben voilà, je me suis dit, c'est une jeune fille complètement démunie et tout. Enfin, j'arrive à lui trouver par la Providence une personne âgée. Et puis, elle a fait une personne âgée, une première, ensuite une deuxième. Et maintenant, elle est mariée, elle est ingénieure, elle épouse un ingénieur, elle a une petite fille, elle vit au Canada. Vous voyez, ben, si j'avais donné 16 ans de ma vie rien que pour elle, ça m'aurait contenté, mais ce n'est pas que elle, c'est vraiment 5 000 binômes qu'on a mis en place. Mmh. Et on est prêt à en faire d'autres. Donc là aussi, on est dans une perspective de changement d'échelle pour créer des agences régionales professionnelles, parce que ce qui nous manquait, c'est la professionnalisation. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de bénévoles, mais les bénévoles, voilà, c'est une force en soi, mais c'est une faiblesse. Donc, il faut aussi professionnaliser et on va essayer de développer un maillage territorial plus important. Mmh. Que ça sera un facteur de clé de succès aussi. Mmh. Si on est dans toutes les villes, eh ben on saura que ça existe. Vous savez que les aides à domicile, ça a mis 50 ans pour devenir ce que c'est maintenant. Mmh. Donc, moi, on m'avait dit 30 ans. On a 15 ans. Donc, il faut être patient.
Est-ce que vous êtes, j'imagine, allé dans les clics, dans les villes?
Ah oui.
Parce que là, eux, c'est quand même un bon endroit aussi pour
oui. Quand même. Oui. Alors là, on a une expérience dans les Yvelines où tous les prescripteurs qui doivent rentrer au domicile des personnes âgées, soit pour l'évaluation de l'APA, soit pour d'autres questionnements, vont devenir prescripteurs d'ensemble de générations aussi. C'est-à-dire qu'ils vont proposer à la personne âgée, s'ils voient qu'il y a une chambre libre, s'ils voient qu'elle souffre de solitude, voilà, de prendre un étudiant l'année. Et comme c'est des professionnels de la santé, médico-social, la personne âgée va se dire, bah, si ça vient du département, on peut peut-être faire l'expérience.
Super. Et dans les salons des seniors aussi, vous avez un stand.
Ah oui, alors, j'imagine. Les salons des seniors. Alors, une fois, j'ai fait le salon de Versailles. Et en fait, on a resté 3 jours avec notre stand, mais ce n'était pas du tout la clientèle des personnes âgées, parce que nous, c'est vraiment du grand âge. Et là, c'était plutôt des seniors 60 ans, botoxés, qui venaient plutôt voir le stand de la croisière, les croisières plutôt que les nôtres. Voilà. Mais sinon, on fait les forums, la semaine bleue, la vie associative. Enfin, je vous dis, on passe notre temps sur le terrain pour... Et quand on capte une personne âgée, on se dit, mais quelle chance on a, voilà, quelle joie. Mais on voudrait en capter beaucoup plus. Mais elles ne connaissent pas, les familles ne connaissent pas non plus. Donc là, cette année, c'est pour ça que pour le 92, on va investir dans une campagne digitale pour retrouver les étudiants, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent plus où ils sont, donc nous, il faut leur dire qu'on existe. Voilà, on va faire un site plus transactionnel pour qu'ils s'inscrivent en ligne, pour que les étudiants s'inscrivent en ligne, et puis, bon, beaucoup communiquer. Donc, ça va être inscrit dans la loi sur le grand âge, hein, cette possibilité du logement international comme une source de maintien à domicile. Cette loi sur le grand âge, je crois qu'elle doit être prête pour la fin de l'année 2021. Donc, on espère travailler dans les ateliers.
Vraiment, vous êtes, à la fois sur le terrain, en même temps dans le lobbying, dans la construction de l'avenir autour de cette solution qui est quand même, effectivement, qui tombe sous le sens. Enfin, c'est vraiment une évidence.
Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient soif d'y répondre. Simplement, ils ne nous connaissent pas non plus. Donc, on a vraiment un déficit en communication et c'est très difficile à l'heure actuelle de communiquer quand il n'y a plus de bureaux, quand il n'y a plus de tracts, quand il n'y a plus d'affiches, quand il n'y a plus rien, quoi.
Et puis, il y a une chose sur laquelle on n'est pas revenu, mais bon, ça nous a aussi beaucoup parlé à la Fondation Sainte-Geneviève quand on a choisi de subventionner, c'est que, en fait, vous n'avez pas de compétiteurs. Il existe des solutions, mais qui n'ont rien à voir, entre guillemets, dans la mission, dans le fond, avec la proposition que vous faites.
Voilà, et c'est ça un peu notre difficulté majeure, là, depuis un an, c'est qu'il y a des plateformes virtuelles qui se sont emparées de la cohabitation intergénérationnelle, mais qui ne la font pas du tout comme elle doit se faire. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une plateforme qui s'appelle Colette.club, où derrière, ce sont des gros investisseurs, donc avec des levées de fonds de 1 million d'euros, alors que nous, on est à 1 euro près. Et qui se disent faire de la cohabitation intergénérationnelle alors qu'ils proposent aux étudiants des loyers, aux seniors des loyers d'étudiants à 500 euros. Je vois pas où est le principe de la solidarité intergénérationnelle. Et du coup, ils polluent le message. Et il n'y a pas du tout la méthodologie qu'on met en place, nous, aller visiter, recevoir les étudiants, être en suivi permanent. Et c'est ça, là, c'est uniquement sur virtuel. Et bon, voilà, donc on essaye de se défendre par rapport à ces nouveaux requins. Donc, de temps en temps, on arrive à les écarter d'un organisme qui comprend effectivement que ça n'a rien à voir. Mais voilà, ils ont une puissance d'action que nous, on n'a peut-être pas. Mais on reste confiant parce que de toute façon, ils n'auront jamais leur clientèle, entre guillemets. C'est vraiment les seniors de ces fameux croisiéristes toxés et qui vont avoir 600 euros par mois de loyer d'étudiants qui, eux, n'ont pas de problème d'argent. Mais voilà, ils ont plus d'impact communicant que nous. Donc, il va falloir qu'on se batte là-dessus. Et voilà, on a créé Changement d'échelle, on a un nouveau conseil d'administration de 12 nouvelles personnes, dont un justement dont la force est le digital. C'est celui qui a créé une agence de voyage qui l'a vendu très très cher au Figaro. Et donc il est au conseil d'administration et lui il est pour le développement du référencement naturel, surtout pas rentrer dans le référencement payant, parce que c'est un engrenage inimaginable. Mais si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas en première page Google, vous n'existez pas. Ben voilà, c'est un monde qu'il faut connaître, ça aussi, hein, quand vous créez une association. Hein. À la fois, association, ça fait vieux, et puis virtuel, ça fait très moderne. Donc là, il va nous aider. Donc, on y croit, on se bat, parce qu'on a tellement vu les fruits. Pour vous dire que moi, je vous parle avec passion, même après 16 ans, de lutte, de combat, de difficultés. Mais toutes les personnes qui sont rentrées dans le projet depuis 16 ans, il n'y en a pas une qui ait quitté le projet pour dire que c'est trop dur, c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un binôme en place, vous avez compris que vous aidiez trois générations de jeunes à avoir un projet d'avenir auquel ils ne croient plus. Une personne âgée qui peut rester chez elle et avec tout son confort. D'ailleurs, je vais vous envoyer un film que les bailleurs sociaux ont financé et qui va être diffusé partout dans les logements sociaux pour inciter les personnes âgées des logements sociaux à appeler en centre de génération. Donc, pour vous dire que sur, par exemple, Paris, on est deux associations. Sur le 92, il n'y a qu'un centre de génération. Et donc, vous verrez que dans ce film, il y a le Paris solidaire et ensemble des générations. Et vous verrez pourquoi les personnes qui nous appellent, là, les personnes âgées, qui ne sont même pas très âgées, qu'est-ce qu'elles ont trouvé avec la venue d'un jeune qui est fait pour ça. Elles ont découvert quelque chose d'exceptionnel. Donc, il suffit de faire le premier pas, comme partout, ouais, dans tout ce qu'on fait.
Ben, bravo, Tiffaine. À nous maintenant de continuer à communiquer autour de ce que vous faites.
Oui.
De toute façon, on se retrouve le 5 octobre pour cette soirée de levée de dons autour de Monseigneur Rouget.
Oui,
on magnifique. Est vraiment très contents de vous subventionner cette année parce qu'on y croit vraiment à cette solution.
Oui, oui.
Et puis, bah, j'espère voilà, que ça va se développer comme vous le souhaitez dans les Hauts-de-Seine, en tout cas
oui,
en 2021. On est tous dans l'attente du succès de cette opération de vaccination. Mais oui, bon, voilà, on va voir ce que ça va donner à la rentrée.
Oui.
Merci en tout cas à Caroline, à Françoise, à Michel, à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis, on a une prochaine pause café dans 15 jours, le 17 juin, où on reçoit We Are Lovers. Encore un autre sujet qui est une petite association qui a 2 ans. Alors, vous voyez, c'est vraiment différent de vous, mais qui est une association de jeunes qui a mis en place un programme de lutte contre l'addiction à la pornographie. Tout ça dans un esprit vraiment de redécouverte de ce que c'est que l'amour, en fait, vraiment qui nous a profondément touchés, parce qu'il existe des associations dans ce domaine-là, mais celle-ci est vraiment particulière et surtout ce qu'il propose fonctionne très bien. Voilà, découverte jeudi 17 juin de We Are Lovers. Troisième projet qui sera présenté le 5 octobre et on terminera début juillet avec un dernier projet qui s'appelle Merci pour l'invite, voilà, qui répond justement à la précarité des femmes à la rue, et qui leur trouve des hébergements. Voilà. Caroline, si vous voulez, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous parler des solutions qu'on a pour les femmes qui ont des enfants et qui sont en situation d'isolement, parce qu'on a quelques associations qu'on subventionne. Voilà. Merci en tout cas beaucoup, Tiffaine, de cette heure passée avec vous. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler avec passion de ce projet qui marche hyper bien. Et puis, à très bientôt à tous.
Merci à vous. Merci, Caroline. Merci, madame. Et merci pour votre confiance, vraiment.
Merci encore.
Au revoir
à tous.
Bonne journée.
Bonne journée.